Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, l'ONU demande une enquête sur les manifestants tués en Irak. La République du Congo se réjouit de l'évolution positive chez son voisin, la République démocratique du Congo. La République centrafricaine rappelle le rôle central joué par les femmes dans son processus de paix. Et en dossier, le Premier ministre d'Andorre nous explique les priorités et les défis de son pays pour cette Assemblée générale des Nations Unies. L'ONU demande une enquête rapide et transparente sur les personnes tuées lors des récentes manifestations en Irak. À Bagdad, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a confirmé la mort d'au moins 12 manifestants qui réclamaient des emplois pour la jeunesse. Le Haut-Commissariat a réclamé une enquête rapide et transparente sur ces décès, comme l'explique depuis Genève sa porte-parole Marta Hurtado.
Le personnel de l'ONU chargé des droits de l'homme a confirmé la mort de 12 personnes à Bagdad. Cependant, nous avons reçu des rapports, et je tiens à souligner que ce nombre n'a pas encore été vérifié, selon lesquels jusqu'à 30 personnes au total auraient été tuées jusqu'à présent lors de manifestations dans plusieurs villes et villages. Des centaines d'autres personnes auraient été blessées, y compris des membres des forces de sécurité. Des dizaines de manifestants ont été arrêtés, mais la plupart ont été relâchés par la suite. Nous appelons le gouvernement irakien à permettre à la population d'exercer librement ses droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Le recours à la force devrait être exceptionnel et les manifestations devraient être gérées normalement sans recours à la force. Tout usage de force doit être conforme aux normes et règles internationales applicables en matière des droits de l'homme, notamment les principes de la nécessité et de la proportionnalité.
À l'Assemblée générale de l'ONU, la République du Congo s'est réjouie de l'évolution positive de la situation chez son voisin, la République démocratique du Congo. C'est le message qu'a adressé le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso, qui a rappelé que Brazzaville préside la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. On écoute le chef de la diplomatie de la République du Congo.
Sans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, il est vain d'espérer atteindre les objectifs de développement que nous nous sommes fixés ici. Il est vain, sans ces conditions, sans la paix, d'espérer parvenir au développement des États, à la prospérité des nations et au bonheur des peuples. C'est ainsi que mon pays, qui préside aux destinées de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et qui a de tout temps assumé sa part de responsabilité dans la consolidation de la paix dans cet espace géographique, mon pays peut aujourd'hui se réjouir de l'évolution positive de la situation en République démocratique du Congo avec l'aboutissement heureux du processus électoral, la mise en place d'un nouveau Parlement et la formation d'un nouveau gouvernement. Le tout dans un contexte de paix conforté par une volonté affirmée de réconciliation nationale.
Une mission conjointe de l'ONU, de l'Union africaine et de l'Union européenne a entamé vendredi une visite de 3 jours en République centrafricaine. Son but, faire le suivi de la mise en œuvre intégrale de l'accord de paix et de réconciliation en RCA avec les principaux acteurs. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU, Aline Gisèle Pana, la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance, a expliqué comment les femmes centrafricaines ont contribué au processus de paix et à la signature de l'accord.
Du fait que déjà il y avait ce leadership et cet engagement au niveau du président de la République, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, de faire en sorte que dans tous les processus de négociation, de consolidation de la paix et dans des situations de post-conflit, que les femmes soient un peu plus associées aux décisions qui vont se prendre et être associées justement à la gestion des affaires publiques. Donc il y a eu un travail de mobilisation des femmes. Je sais que la société civile et les organisations de femmes étaient très engagées à travers les différents réseaux et elles ont pu mettre la pression sur les dirigeants de faire en sorte qu'elle soit aussi associée au processus de négociation. Et il faut le rappeler au niveau gouvernemental, il y avait 3 femmes, la ministre de la Défense, la ministre des Affaires étrangères et la ministre en charge des questions humanitaires qui ont représenté le gouvernement. Et évidemment, nous avons aussi eu la participation d'une représentante des groupes armés qui a pu s'imposer aussi face aux hommes parce que ce n'était pas évident. Les groupes armés sont dirigés par des hommes et elle a pu faire entendre sa voix de façon à prendre part à ce processus. Donc, ce n'est qu'une continuation de toutes les réformes qui ont été entreprises au niveau législatif, mais aussi conformément à nos engagements au niveau international, faire en sorte que les femmes soient intégrées, soient incluses à tous les processus de négociation.
Le Premier ministre d'Andorre, Xavier Espot Zamora, a participé cette année à sa première Assemblée générale des Nations Unies. Membre de l'ONU depuis 26 ans, la principauté croit fermement au principe du multilatéralisme, seule solution pour résoudre les problèmes communs au monde entier. Chef du gouvernement andorran depuis mai dernier, Xavier Espot Zamora explique comment son pays relève le défi du changement climatique et œuvre à la réalisation des objectifs de développement durable.
C'est ma première participation comme chef de gouvernement, comme premier ministre de la principauté d'Andorre. Ça a été vraiment une expérience inoubliable et un honneur pouvoir représenter mon pays dans le plus important forum multilatéral. Évidemment, je représente un petit pays de par sa population et de par son territoire, mais un pays qui veut peser aussi et qui est un grand défenseur du multilatéralisme. Et de ce point de vue, nous ne pouvions pas manquer à cet événement.
Andorre, c'est un État situé dans une région montagneuse, une petite superficie. Comment est-ce que votre principauté fait face aux défis du changement climatique ?
Évidemment, aucun pays n'est épargné par le changement climatique, et particulièrement un pays comme l'Andorre, un pays de haute montagne, est particulièrement touché et sera encore plus touché par ce changement climatique. C'est de ce point de vue qu'hier j'évoquais la nécessité que nous unissions tous les États, tous les pays, nos efforts pour lutter précisément contre le changement climatique. Je crois qu'il y a certains objectifs des Nations Unies qui peuvent être accomplis par des actions, disons, pays par pays, par des actions locales ou par des actions régionales. Mais il y a d'autres objectifs où, si tous les pays nous travaillons pas ensemble et nous investissons pas dans l'accomplissement, disons, des objectifs que fixent les Nations Unies, il sera impossible de pouvoir, disons, réussir ces objectifs. Et particulièrement le changement climatique, c'est une de ces questions dans lesquelles, malgré nous sommes en train de faire tous les efforts qui nous ont été demandés, et même plus, si les autres pays ne s'unissent pas à ces efforts, il sera très difficile d'atteindre les objectifs.
Faire comprendre les objectifs de développement durable, c'est le défi des États membres. Comment est-ce que Andorre met en œuvre ses objectifs ou essaye de mettre en œuvre ses objectifs de développement durable au niveau local ?
En fait, l'Andorre a déjà approuvé et commence à mettre en œuvre un plan stratégique national en ce qui concerne les objectifs de développement durable. Et c'est de ce point de vue que nous appliquons, disons, à l'échelle nationale, à l'échelle locale, ces objectifs de développement durable. Non seulement cela, mais après aussi nous profitons des événements de caractère plus international aussi pour appliquer ces objectifs de développement durable. Et particulièrement, nous avons la présidence maintenant du sommet ibéro-américain. C'est une grande occasion pour nous, disons, de pouvoir appliquer concrètement à ce forum les objectifs de développement durable. Et c'est pour cette raison que le leitmotiv ou le thème du prochain sommet ibéro-américain qui va se faire sous la présidence de l'Andorre, c'est l'innovation pour le développement durable, objectif 2030.
Le président de la Suisse, mardi, a souligné une évidence, une réalité, c'est que la force des grands États prime souvent sur le droit des petits. Est-ce que vous pensez que le multilatéralisme a encore toute sa place aujourd'hui, alors que de nombreux autres États le remettent en cause ?
Évidemment, je crois que la solution, disons, des problèmes et des grands défis que nous avons dans la planète en ce moment ne peut se faire d'une autre façon qu'avec plus de multilatéralisme. Non ? Et de ce point de vue, l'Andorre mettra son petit grain de sable pour essayer de faire la pédagogie nécessaire et les efforts nécessaires pour que les États qui plus ou moins remettent en cause ce multilatéralisme reviennent à cette façon, disons, d'agir et de penser.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de l'action d'Andorre pour lutter contre le changement climatique dans votre principauté ?
Justement, l'Andorre, il y a juste quelques mois, vient d'approuver une ambitieuse loi en faveur de la transition énergétique et de lutte contre le changement climatique avec des objectifs très ambitieux. En fait, les deux principales émissions de CO2 dans notre pays, vu que nous ne sommes pas un pays industrialisé, nous ne sommes pas une puissance industrielle, c'est d'une certaine forme la mobilité, les voitures et les chauffages, disons. Et c'est pour cette raison que nous avons déjà un plan d'action très très concret pour essayer à long terme, à moyen terme et à long terme, qu'il n'y ait plus, disons, d'émissions à effet de serre, en ce qui concerne d'un côté la mobilité, en ce qui concerne aussi le chauffage. Non, nous avons, disons, une loi de ce point de vue qui est extrêmement ambitieuse, mais nous sommes convaincus que nous serons dans la mesure d'accomplir les objectifs de cette loi, qui d'une certaine façon sont les mêmes objectifs qu'a fixé les Nations Unies.
Fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.